je vous mets l'évolution des causes de mortalité depuis la mise sous traitement antirétroviral. Alors, c'est des données 2000 et 2005. La diapositive est un petit peu coupée sur le côté. Et ce qu'on a constaté depuis donc, la mise sous traitement antirétroviral, c'est une baisse de la mortalité liée aux complications du VIH et au SIDA au profit d'une augmentation des mortalités de causes cardiovasculaires, de causes liées aux co-infections virales et en particulier à la cirrhose hépatocarcinome avec l'hépatite C, et puis des cancers en général. Avec aujourd'hui, donc 30% des causes de décès sont reliées au cancer, et avec bien entendu une part très forte liée à l'utilisation, enfin au tabagisme. Une interrogation sur le VIH lui-même qui est pour le moment non. Je ne pense pas que ce soit le VIH lui-même qui soit responsable de cette surmortalité de cancer. Et une question qui se pose, hein, je vous l'ai dit, c'est sur les antirétroviraux, puisque les antirétroviraux quand même interfèrent avec l'ADN et donc peuvent éventuellement augmenter peut-être des risques de cancer. Ça, ce n'est pas clair. On vient de faire une étude récente sur l'exposition en particulier au ritonavir chez les patients atteints de cancer du poumon VIH et nous n'avons pas trouvé d'augmentation du risque relatif chez les patients exposés au ritonavir par rapport à ceux qui ne sont pas exposés au ritonavir, en tout cas dans le cadre du cancer du poumon. C'est quelque chose qui est en cours de publication. Donc je vous ai remis cette diapositive. Vous voyez, les trois premiers cancers, ce sont les lymphomes liés à l'EBV, le sarcome de Kaposi lié à l'HHV8, le cancer anal lié à l'HPV, et puis on trouve en quatrième position le cancer du poumon. Et vous savez qu'en termes de cancer, le cancer du poumon, quant à lui, est le premier pourvoyeur de mortalité par cancer. Donc il est quatrième et en plus premier en termes de mortalité, bien devant le Kaposi, le lymphome ou le cancer anal. C'est une autre manière de présenter les choses. Hein. Ce sont donc les cancers reliés au VIH et non reliés au VIH. Et vous voyez qu'aujourd'hui, deux tiers des cancers, finalement, quantitatifs, ne sont pas reliés au VIH. Et que si on regarde maintenant la distribution au sein des cancers non reliés au VIH, vous voyez que c'est le premier, c'est le cancer du poumon qui vient en tête. Donc maintenant, est-ce qu'effectivement, il y a une augmentation du risque spécifique de cancer du poumon dans la population VIH par rapport à la population non VIH, en sachant qu'aucune étude n'est satisfaisante, puisque finalement, il ne s'agit pas d'une population non VIH, mais bien d'une population de sérologie VIH méconnue, puisqu'on ne fait pas un test VIH à tous les patients qui ont un cancer du poumon. Probablement qu'il y a un certain biais, mais s'il y a un biais, il est plutôt au sens de la diminution du risque plutôt que d'augmentation du risque. Et ça, ce sont les premières études avant l'ère des thérapies antirétrovirales. Vous voyez qu'on considérait que l'incidence standardisée de risque de cancer du VIH par rapport à la population générale était de l'ordre de 2 fois à presque 7 fois supérieur ce risque dans la population VIH. Est-ce que ce risque a diminué à l'ère des traitements antirétroviraux? Je pense qu'il est difficile de l'affirmer. Les seules études qui ont fait des comparaisons pré et post sont en particulier les trois premières études, hein, Erida, Bauer et Clifford, qui ont plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas eu de réduction du risque du cancer après l'exposition aux antirétroviraux. Et donc, il y a du coup aussi posé la question, au contraire, d'un surrisque. Pour des raisons qui, pour moi, n'est pas tout à fait claire, en tout cas pas forcément reliées directement au VIH, eh bien, la femme paye un plus lourd tribut relativement par rapport à l'homme en termes de risque. Alors, est-ce que c'est une susceptibilité particulière liée au sexe féminin? Est-ce que c'est aussi un biais qui est lié au mode de transmission du VIH avec une grosse proportion dans ces études de femmes toxicomanes? Donc probablement aussi avec une interaction forte avec la toxicomanie et le tabac. Bien entendu, pratiquement tous les cancers du poumon chez les patients VIH sont reliés au tabac. Et une des raisons évidentes pour qu'il y ait plus de cancers du poumon chez le VIH est que la population VIH voyez, est plus exposée au tabac que la population non VIH. On considère dans la population non VIH environ 30% de fumeurs, alors qu'on considère que 60% des patients VIH sont fumeurs. Et on le revoit bien ici aussi sur cette étude plus spécifiquement reliée à mode de contamination par le VIH et ici par les usagers de drogues intraveineux qui sont aussi plus souvent fumeurs. Et vous voyez qu'effectivement, il y a encore un plus fort proportion de risque de cancer du poumon chez les VIH toxicomanes. Maintenant, est-ce que le tabac explique tout ? Alors ça, ce sont des études où on fait des hypothèses sur donc le risque relatif en fonction de l'exposition au tabac dans la population générale. Donc vous voyez, dans l'hypothèse H0, on ne sait pas et on considère qu'une valeur arbitraire de l'exposition du tabac dans la population générale. Et vous voyez que là, bien sûr, le risque relatif, il reste à 6,5. Et dans l'hypothèse H1, on considère que la population générale est à 100% fumeuse. Et vous voyez que même si on considérait que la population générale était à 100% fumeuse, il y aurait un risque relatif à 2,5. Donc il y a bien quelque chose qui se rajoute à l'exposition au tabac, en plus du tabac, pour expliquer ce surrisque de cancer du poumon chez le VIH. Une autre manière de voir les choses dans cette diapositive. Et donc, si on regarde des études très difficiles à mener, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de VIH non-fumeurs, et qu'on s'intéresse quand même à regarder le surrisque en comparant la population VIH fumeur et la population VIH non-VIH fumeur, eh bien, vous voyez que ce risque relatif est encore à 2,5. Donc, il y a bien quelque chose en plus que du risque lié au tabac. Donc la question est de savoir si c'est lié au déficit immunitaire associé à l'infection VIH, ce qui est assez logique puisque tous les cancers sont augmentés en situation d'immunodépression, sauf le cancer du sein, pour des raisons qui restent tout à fait mystérieuses. C'est un cancer qui diminue en cas de déficit immunitaire. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, lorsque le patient est au stade sida, vu après le stade sida, eh bien, ce risque relatif a plutôt tendance à augmenter. Donc il existe probablement un lien supplémentaire lié au déficit immunitaire sur le risque du cancer. Une autre manière de voir les choses, c'est en fonction du nadir des CD4 au cours de l'infection VIH par rapport au risque de cancer. Là encore, l'impression est qu'il y a un effet dose, c'est-à-dire que quand même, mais qu'il est faible. Plus le déficit immunitaire est fort, plus le risque est augmenté. Et ça a été beaucoup mieux fait dans une étude récente française à laquelle nous avons participé, où là, on démontre bien, hein, sur un collectif de plus de 200 cancers du poumon qu'on a comparé à près de 40 000 patients VIH non cancer du poumon, qu'il y a un effet dose du risque de cancer du poumon chez le VIH en fonction du nadir du déficit immunitaire, vous voyez, de plus de 500, donc quasiment pas de déficit immunitaire, à moins de 50. Ce risque part de 1 et arrive jusqu'à 9. Donc les choses sont probablement complexes. Le tabac est certainement le pourvoyeur principal du cancer du poumon chez le VIH. Il y a certainement un rôle du déficit immunitaire et pas clairement du VIH par lui-même. Et a priori, on pense avoir levé au moins en partie le risque attribuable au traitement antirétroviral. Et les hypothèses quand même principales sont toujours ce qu'on a dit tout à l'heure pour la BPCO, une sénescence et une anticipation du risque du cancer de près de 10 ans. Liés à cette sénescence et les patients VIH par rapport au non-VIH. On peut imaginer aussi, et ça c'est des études que l'on va faire, comparer le statut génétique des tumeurs des VIH au non-VIH pour regarder s'il y a des anomalies moléculaires supplémentaires qui pourraient expliquer ce risque supplémentaire. Alors, quelles sont les caractéristiques des cancers du poumon chez le VIH ? Dans les premières études, c'était une quasi-prédominance ou exclusivité des hommes. Et puis, vous voyez, sur les études plus récentes, malheureusement, les femmes rattrapent les hommes dans ce domaine, comme d'ailleurs dans la population non-VIH. Pratiquement, là, toutes les populations, toutes les études montrent que c'est un cancer qui aujourd'hui touche quasiment exclusivement que des fumeurs. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il y a une anticipation majeure du diagnostic du cancer du poumon chez le VIH. Parce que vous voyez, la moyenne d'âge, la médiane d'âge au diagnostic est de l'ordre de 45 ans, alors que dans la population générale, c'est 65 ans. Vous voyez donc une anticipation énorme du cancer du poumon. Je relativise ces données-là en disant que c'est des données qu'on a construites dans les années 2005-2006. Et donc, on avait projeté une épidémie de cancer très importante chez le VIH et qu'on n'observe pas. Donc, comme toujours, il y a probablement aussi un effet de susceptibilité et on a vu une explosion de cas de cancer au début, probablement parce qu'on a vu les plus susceptibles à ce cancer. Et là, on a l'impression que ça diminue aussi beaucoup. Et on verra aussi que probablement le pronostic a évolué, qu'il faudrait certainement refaire une étude cancer et VIH, parce que je crois que ce qu'on a dit en 2005 n'est plus vrai en 2014. Si on regarde maintenant le taux de CD4, l'infection VIH au moment du cancer du poumon, dans les premières tranches du tableau, c'était donc avant l'ère du VIH, du traitement antirétroviral, pardon, au moment finalement de l'instauration des traitements antirétrovirales, la deuxième partie du tableau, et la troisième partie du tableau, vous voyez, c'est depuis l'institution du traitement antirétroviral. Alors, ce qu'on constate, c'est que les CD4 augmentent dans ces différentes périodes, mais que d'ailleurs, aujourd'hui, pour des raisons qu'on ignore, le VIH est diagnostiqué avec des taux de CD4 plus élevés qu'il était auparavant, et que les pneumocystoses, par exemple, surviennent plutôt aux alentours de 350 CD4 que 250. Ça, c'est pas très bien expliqué. Et vous voyez qu'on a à peu près toujours la même proportion de malades de stade de sida lors des études plus récentes, et que environ 70% des patients ont une charge virale contrôlée au moment du diagnostic du cancer. Rien d'extraordinaire en termes de type de cancer, c'est quasi exclusivement des cancers non à petites cellules. Rien non plus d'extraordinaire en fonction des différents types histologiques. Ça dépend des pays, ça dépend des âges, au sein des pays aussi des régions du pays, qui vont faire qu'on va avoir globalement quand même une prédominance de carcinome. Mais là encore, on a probablement surestimé cette présence d'adénocarcinome. On retrouve quand même encore 20 à 25% d'épidermoïdes et d'autres types histologiques dans les non à petites cellules. Malheureusement, mais là encore, c'est le fait du cancer du poumon en général et du cancer du poumon en particulier des sujets jeunes, avec pratiquement 80% des patients vus à un stade avancé, stade 3-4. Et en termes de données pronostiques, on retrouve des choses habituelles dans la population non-VIH, c'est-à-dire que les deux grands marqueurs de pronostic du cancer du poumon sont essentiellement le PAS et le stade diagnostic. Mais ce qui est beaucoup plus important dans cette population-là, c'est de savoir effectivement que le fait d'avoir un traitement antirétroviral a un effet protecteur et améliore la survie globale par rapport au fait de ne pas être traité par le traitement antirétroviral. Ce qu'on retrouve également pour l'hypertension pulmonaire, pardon, les patients VIH, même s'ils ne justifient pas en termes de déficit immunitaire un traitement antirétroviral, bénéficient en termes de mortalité d'un traitement antirétroviral vis-à-vis de l'HTAP. Une autre étude française qui montre tout à fait des choses similaires, l'impact positif de l'exposition au traitement antirétroviral sur le pronostic global de la maladie. Est-ce qu'il y a des différences pronostiques dans la population VIH par rapport à la population non-VIH? Il n'y a pas d'étude très satisfaisante. L'impression a été au départ que le pronostic est beaucoup plus mauvais dans la population VIH que dans la population non-VIH, mais on l'a vécu également pour les lymphomes, par exemple. Et puis, au cours du temps, les choses ont évolué parce que probablement aussi que ces patients étaient sous-traités et de manière non standard par rapport aux populations non-VIH. Et c'est un petit peu l'image qu'on a aussi de ce qui se passe dans le cancer du poumon, et une image qu'il faut absolument modifier. Ces études aussi sont faites sur des petites cohortes, et très paradoxalement, il n'y a pas de données de PS dans ces populations-là. Donc c'est aussi une éducation que l'on a à faire auprès des médecins qui suivent les VIH, c'est que le PS est pour nous un élément majeur de pronostic et nous devons avoir ces informations chez les patients VIH. En ce qui concerne toujours la différence VIH-non-VIH, vous voyez que la grande différence, elle est liée à l'âge. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, une anticipation très importante du cancer chez la population VIH par rapport à la population non-VIH et un stade encore plus avancé et beaucoup plus de fumeurs dans la population VIH, ce qui est quand même pas une bonne chose. Même si en paquet année, ça paraît plus faible, mais comme ils sont plus jeunes, finalement, c'est une fausse illusion de penser qu'ils fument moins. C'est juste qu'ils ont 20 ans de moins. Le pronostic dans cette grande étude de Brock est plutôt pas mal fait parce qu'il y a une bonne appareillement par rapport à des facteurs pronostiques. Montre quand même un moins bon pronostic du cancer du poumon chez le VIH par rapport au non-VIH, avec comme toujours un fort impact du stade. Et lorsqu'il quand même il stratifie et qu'il donc apparaît par rapport au stade, on voit que cette différence de pronostic s'atténue et donc elle est plus reliée finalement au stade de la maladie que au cancer par lui-même chez le VIH. Et malheureusement, dans cette étude, comme dans toutes les études, on n'a pas de données sur le PS. Je vous ai montré d'autres études qui montrent pour certaines une surmortalité, pour d'autres non, en étant comme toujours critique. C'est-à-dire que dans l'étude de Brock, je vous l'ai dit, quand on match, quand on apparaît au TNM, on n'a pas de différence de pronostic. Pour les autres études où finalement on a l'impression qu'il y a un plus mauvais pronostic, elles sont toutes critiquables parce qu'il n'y a pas le PS, parce qu'il n'y a pas le statut tabagique, parce qu'il n'y a pas le taux de CD4 ou de charge virale pour l'étude, par exemple, de Spiro. Et dans cette étude également, il n'y avait pas de notion de PS ni de tabagisme, donc ça laisse quand même très suspicieux sur les résultats. Est-ce que la mortalité chez le patient qui a un cancer du poumon et qui était VIH est liée finalement au VIH par lui-même? Bah, oui, certainement aux époques pré-traitement par ART, non, depuis que les patients sont traités par des antirétroviraux. Et vous voyez que dans au moins ces deux séries-là, la mortalité chez ces patients-là était liée au cancer du poumon et non pas du tout à l'infection VIH. Est-ce qu'il y a une agressivité particulière du cancer du poumon chez le VIH? Peut-être, et cette étude nous a beaucoup perturbés, puisque les patients VIH sont plutôt très suivis, très régulièrement, ont souvent des radios de thorax un petit peu systématiques. Et dans cette étude-là, alors que les patients avaient environ 10 consultations médicales dans l'année, eh bien, on était passé à côté du cancer du poumon. Et a posteriori, lorsqu'on regardait les images, on se disait que tiens, peut-être qu'il y avait une anomalie radiologique qui était passée inaperçue. Donc, une maladie plus agressive, oui, probablement. Surtout, il y a une espèce effectivement de trivialisation des symptômes respiratoires chez ces patients, une banalisation, alors que ce sont des gros fumeurs et on n'a pas assez recours au scanner systématique chez les patients et on se contente d'une radio de thorax. Et ça pose le problème du dépistage dans cette population particulière du cancer du poumon, mais ça c'est vrai en général et il faudra qu'on avance sur ce problème du dépistage. Donc finalement, quand un patient a des symptômes respiratoires et qui est sous traitement antirétroviral et a fortiori s'il est fumeur, il faut penser au cancer du poumon. En revanche, une grande difficulté, c'est que le staging, la stadification peut être faussement positivée par la TPFDG et plus encore dans cette population VIH, si la TPFDG montre des anomalies, si elle d'exclure un patient à un traitement radical parce qu'elle montre des anomalies, plus que jamais, il va falloir vérifier que cette anomalie est bien reliée au cancer et non pas à une pathologie associée. Alors, sur le plan du traitement, à proprement parler, il n'y a malheureusement pas de recommandation spécifique. Il y a quelque chose qui est en train d'être écrit sous l'égide de l'ESMO et qui sera publié dans Annals of Oncology, si on l'espère, assez rapidement. Il faut aussi tenir compte des comorbidités très lourdes chez ces patients-là. On va voir, mais l'addiction oncogénique chez ces patients est faible puisque ce sont des grands fumeurs. Et vraiment, les comorbidités vont poser un problème d'association avec les antirétroviraux et surtout de gestion des chimiothérapies. Comme vous le savez aussi, on l'a déjà vu tout à l'heure, le fait d'avoir une trithérapie antirétrovirale va aussi poser des problèmes d'interaction médicamenteuse ou de toxicité additionnelle entre la chimiothérapie et le traitement antirétroviral. Alors, une étude asiatique sur la fréquence des addictions oncogéniques chez les patients VIH, étude de 43 patients VIH avec un cancer du poumon en Asie entre 86 et 2013. Et vous voyez que dans cette étude, finalement, sur les 43, 14 patients ont été testés pour la présence d'une mutation de GFR. 5 étaient positifs, donc environ 36%. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans la population japonaise, fumeuse ou non fumeuse, avec dans le cas de la présence d'une mutation de GFR, un pronostic bien meilleur que s'il n'y a pas de mutation de GFR. Une étude a été faite également sur une cohorte de notre groupe hospitalier, et qui sont des caucasiens, comme vous l'imaginez. Et vous voyez que là, la déception est plus forte. Seuls 2 patients sur 62 vont avoir une mutation de GFR. En revanche, quand ils ont une mutation de GFR, ça marche très bien sous émetteur de tyrosine kinase. Vous voyez ce patient qui avait une mutation de GFR, traité 3 semaines après, une disparition quasi complète de l'image de son cancer. C'est le travail qui avait été fait en 2006 en France, et on avait recensé les traitements qui avaient été donnés aux patients qui avaient un cancer du poumon en France cette année-là. Sur 30 patients, vous voyez qu'il y avait 9 chimiothérapies différentes, donc une grande hétérogénéité de pratique. Sur ces 9, il y en avait quand même un tiers qui n'était pas... sur ces 30 patients, un tiers ne recevait pas un schéma standard. Et par ailleurs, 10% avaient un schéma qui était un schéma de sujet âgé de l'époque, parce que ça serait même plus vrai aujourd'hui, ou de PS2, alors que c'était des sujets jeunes et qui, pour la plupart, avaient un PS qui aurait autorisé un traitement standard. Donc c'est à cette occasion que l'IFCT a promu un essai thérapeutique de phase 2 qui essaye de faire un pivot thérapeutique dans cette population-là, qui s'est adressé que aux adénocarcinomes, peut-être de manière un petit peu dommage, puisque on a finalement jusqu'à 30 à 40% de non-adénocarcinomes, et qui posait bien sûr la question de l'induction par une chimiothérapie par pemetrexède associée aux carboplatines pour limiter la toxicité des associations au niveau du rein entre antirétroviraux et traitements anticancéreux, et puis qui posait aussi la question de la faisabilité d'une maintenance chez ces patients-là. Je dis la grande difficulté des interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les anticancéreux au niveau hépatique, avec ce cytochrome P3A4, avec deux éléments. Les antirétroviraux de type antiprotéase ou INNRT vont entraîner une induction enzymatique et du coup une éventuellement diminution de l'efficacité des drogues, des molécules, pardon. Et les autres antirétroviraux vont, quant à eux, avoir une action plutôt d'augmentation des anticancéreux, et donc une augmentation potentielle de la toxicité des anticancéreux. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en permanence en tête, et il faut avoir dans son petit cahier ce travail de Mackinson qui a bien fait le recensement des différentes molécules antirétrovirales qui interagissent avec le cytochrome P450 et en fonction du sous-type, en partie 3A4, et également les chimiothérapies qui interagissent avec ce cytochrome P450. Et donc, vous voyez en rouge, c'est un petit peu les molécules qu'il va falloir manier avec beaucoup de précautions, et en vert, les molécules qui vont être plus faciles à manier en cas de traitement antirétroviral associé. Et vous voyez, ça tient compte aussi des émetteurs de tyrosine kinase, comme l'afatinib, ou des antiangiogéniques comme le bevacizumab. L'autre difficulté, c'est les toxicités cumulatives à la fois des traitements antirétroviraux et du traitement du cancer. Et là encore, rapportez-vous à ce travail de Mackinson qui a très bien fait cette revue de la littérature pour, à chacun des antirétroviraux, connaître un petit peu le risque de toxicité spécifique, le risque d'aggravation d'associations spécifiques en cas d'association à la chimiothérapie, et puis de l'autre côté également les risques spécifiques de la chimiothérapie et donc l'accumulation des toxicités qui vont pouvoir survenir chez ces patients. Je ne ferai pas l'énumération non plus de toutes ces toxicités en fonction des antirétroviraux et des chimiothérapies. Les diapositives seront à votre disposition. Et je voudrais aussi finir par cette diapositive en vous disant que peut-être que vous pourrez nous rejoindre pour ceux que ça intéresse, puisque depuis maintenant un an, a été mis en place sous l'égide de l'INCa une RCP nationale pour toutes les pathologies tumorales, surnommant chez le patient VIH, avec d'une part des référents VIH Et ici, c'est le docteur Isabelle Poiseau-Martin. Et puis, des référents oncologistes. Ici, c'est le docteur Jean-Philippe Spano qui donc co-dirige cette RCP nationale. Et avec Armelle Lavollée, nous sommes un petit peu les référents cancer du poumon dans cette RCP. Donc, prenez bien ces coordonnées. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre. C'est des RCP via Internet. Donc, vous pouvez participer également. Voilà, ce sera ma dernière diapositive. Je vous remercie. Thank you.